Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui et tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pendant 3 heures, de midi à 15 heures, avec tout d'abord Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Thierry Moreau est là, salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à tous, pleine forme.
Emmanuelle Dancoura était déjà là hier, elle est là aujourd'hui.
Ah mais moi je vis ici maintenant, hein. Jeudi, vendredi, lundi, mardi.
Eh ben écoutez, on en est ravis. Emmanuel et puis le journaliste RMC, Fred Hermel, salut Fred.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Salut, on sera avec vous évidemment au 32-16 ou sur l'application RMC, rubrique Direct Studio pour réagir à tous nos débats aujourd'hui. Et tout d'abord, ce match sous haute tension, ce match à haut risque ce soir entre Marseille et Francfort, 1200 policiers mobilisés, des ventes d'alcool interdites, pas d'études pour les enfants scolarisés dans les écoles alentours. Est-ce que le foot est devenu un sport dangereux? On attend bien sûr vos avis. Midi et demi, la fin annoncée du bouclier tarifaire et des hausses des prix de l'électricité et du gaz prévues dès janvier. Mais est-ce vraiment à nous de payer ces hausses d'électricité et de gaz? À 13h, le comité d'éthique qui se dit favorable à une aide active à mourir strictement encadrée. Une nouvelle loi sur l'euthanasie est-elle vraiment nécessaire? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, l'anniversaire du jour, Tinder qui fête ses 10 ans. Les applis de rencontre sont-elles désormais le meilleur moyen pour trouver le grand amour? Racontez-nous vos expériences, bonnes ou mauvaises, sur Tinder. On vous attend nombreux et nombreuses au 32-16 et puis on vous fera gagner plein de cadeaux Apple dans cette émission.
Oui, dans toutes les émissions d'RMC tout au long de la semaine, nous continuons effectivement à vous offrir des produits de la gamme Apple avec le jeu du coffre qui se poursuit vers 14h40. L'un d'entre vous sera avec nous à l'antenne et gagnera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à partir de ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous gardez votre cadeau, soit vous y renoncez, mais vous ouvrez le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou l'iPhone 14 Pro Max, le top du top de l'iPhone. Pour jouer, vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC, vous êtes dans Estelle Midi et on va démarrer tout de suite avec le match du jour. C'est bien sûr celui entre Marseille et Francfort ce soir en Ligue des Champions. Match à haut risque, 5 jours après les incidents lors de Nice-Cologne. 1200 policiers ont été mobilisés car on attend des milliers de supporters allemands sans billets et des mesures ont déjà été prises, Rémi.
Oui, selon les dernières estimations, si 3300 sièges ont été mis à disposition des supporters allemands, il pourrait y en avoir 2000 à 3000 de plus sans tickets. Pour tenter d'éviter tout incident, plusieurs arrêtés, tu l'as dit, ont été publiés. Outre l'interdiction de vente d'alcool dans plusieurs quartiers de la ville dès 14h, la présence de fans allemands est notamment interdite aux abords du stade. Il y aura un point de ralliement situé plus loin, place de la Joliette. Et les supporters, à condition qu'ils aient un billet, seront acheminés jusqu'au stade en car, sous escorte policière. Une fois dans le stade, ces supporters seront parqués en tribune. 1500 places seront laissées vides pour créer une sorte de zone tampon avec les supporters marseillais. Un filet résistant au feu a même été installé. Enfin, pour contrôler et faire respecter ces différentes mesures, 1200 à 1300 stewards devraient être mobilisés. C'est deux fois plus que pour un match traditionnel de Ligue 1, auquel il faut ajouter évidemment des policiers et des gendarmes. Alors, la préfecture de police n'a pas communiqué sur le chiffre exact du nombre de forces de l'ordre, mais on peut estimer qu'ils seront environ un millier.
Alors le foot est-il en train de devenir un sport dangereux? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel.
Oui, malheureusement. Et ça me fait mal au cœur, moi qui suis journaliste de foot depuis si longtemps, moi qui aime ce sport depuis mes 4-5 ans. Quand j'entendais le journal de Claire tout à l'heure et qui nous expliquait, l'envoyé spécial de RMC Nicolas Pelletier, qu'on allait fermer des écoles.
Non, c'est les études qui sont fermées en fait.
Oui, mais c'est le symbole.
Oui, bien sûr.
Le symbole, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est-à-dire l'éducation. On est obligé de priver les enfants d'études. Alors, c'est qu'une journée, on aime bien, mais c'est la question de symbole, parce qu'il y a ce qui devrait être une fête, qui est un match de foot, et qu'on met en danger. Vous voyez, le truc, ça me paraît hallucinant. Normalement, si on me disait, allez, on ferme les écoles pour que les enfants puissent aller au stade. Non, on ferme les écoles pour que les enfants ne soient pas mis en danger par la folie ambiante. On dit souvent que le football est le reflet de la société. C'est vrai. Je dirais même souvent que le football est précurseur de l'évolution de la société. La société est de plus en plus violente, et le football est de plus en plus violent.
Mais ça touche pas d'autres sports.
Eh oui, c'est ça.
Pourquoi? Non, mais pourquoi? Mais parce que c'est le sport le plus populaire. C'est une question de nombre, en fait. Parce que le football est le sport qui engendre le plus de foule. Donc automatiquement, qui dit foule, dit gens qui, personnes qui, parce qu'ils sont cachés par la foule, expriment leur violence. Et moi, je suis très énervé, notamment dans notre pays, la France. On parlera de l'Espagne tout à l'heure, parce que l'Espagne a lutté contre ça. Le phénomène des ultras en France est mis en valeur par les clubs, est mis en valeur par la presse aussi. Les médias disent, ah oui, c'est super, ils mettent l'ambiance,
c'est fait un beau tifo,
voilà, etc. Mais à cause de ça, au nom d'une certaine ambiance, on laisse parfois les clubs aux mains des ultras. Moi, j'en discutais avec un.
Là, le problème, c'est pas les supporters marseillais, hein.
Non, mais c'est pas là, ce sont. Non,
mais
là,
le problème, c'est les supporters allemands, comme sur Nice-Cologne, en fait.
On sait très bien, il y a eu des histoires entre Nice-Marseille. Enfin, je veux dire, personne en France, même mon club Lens, il y a eu des histoires.
Ouais, c'est sûr.
Et pourtant, Lens était un havre de paix. Et moi, j'étais écœuré.
Il y a eu derby, il n'y a pas longtemps.
Voilà, enfin, j'étais à un moment pendant le derby contre Lille, même là. Et je sais, j'en ai parlé avec certains dirigeants, certains présidents de club, et un président me disait, en fait, les ultras n'ont rien à foutre du club. Ils sont qu'entre eux, et ils veulent faire leurs petites histoires, etc. Donc aujourd'hui, oui, le foot est violent. Oui, le foot est dangereux. Et moi, si j'avais un enfant en bas âge, je ne l'emmènerais pas au football, malheureusement.
Alors justement, avant de vous écouter, Emmanuel et Thierry, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, notamment des auditeurs de Marseille sur ce sujet. Je vais commencer avec Kamel, qui nous appelle de Marseille, justement, qui est médiateur. Bonjour, Kamel.
Bonjour.
Kamel, est-ce que vous allez au match ce soir ?
Bien sûr, je suis abonné. Hein.
D'accord. Et est-ce que vous avez peur que ça dérape ?
C'est pas que j'ai peur, c'est que ça va déraper, comme d'habitude.
Et c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas combien d'Allemands qui sont arrivés sur Marseille depuis hier, sans billets. D'ailleurs, ça, je comprends pas. Après, pour revenir aux propos de Fred, le foot, ça a toujours été un sport dangereux. C'est un peu le reflet de la société. Et vu que la société elle, est de plus en plus violente, ben, dans le foot, on a de plus en plus de violence. Que ce soit dans les stades et en dehors du stade.
Ouais, mais ça s'était calmé avant. Et là, on a l'impression qu'il y a une recrudescence depuis le Covid, hein, d'ailleurs. Parce que avant le Covid, on n'en parlait pas autant. Mais Kamel, quand vous dites ce soir, c'est sûr, ça va péter. À quoi vous le sentez ? C'est-à-dire que c'est palpable ? Il y a une tension ?
Ben, je sais pas si vous avez vu les vidéos qui tournaient un peu sur les réseaux sociaux, là, depuis hier soir. Un peu des genres de chasse à l'homme dans le centre-ville de Marseille. Alors là, pour l'instant, aux alentours, moi j'habite en face du stade Vélodrome. Pour l'instant, c'est calme, il n'y a aucun souci. Mais moi, ce que je redoute un peu, c'est le transfert qu'il va y avoir entre ceux qui ont leur billet de la place de la Joliette jusqu'au stade Vélodrome. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les autres qui n'ont pas de billets ? Moi, il faudrait qu'on me réponde à cette question.
Après, des supporters qui viennent sans billets soutenir leur équipe, etc. Les Anglais, par exemple, le font beaucoup parce qu'ils viennent pour l'ambiance de la ville, etc. Ça ne veut pas dire nécessairement incident. Bah, alors, on sait que Francfort,
ça aide à les incidents. Plus il y a de supporters de l'autre équipe, plus il y a possibilité de contact avec les supporters marseillais ou autres. Voilà. Et donc, ça va créer des problèmes. Kamel a raison, il va y avoir des problèmes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Kamel.
Mais de toute façon, à Marseille, on n'est pas des enfants de cœur, dans la France entière. Donc, il y aura des 4-5 000 Allemands dans le centre-ville ou aux alentours du stade. Ça va se provoquer, ça va s'envoyer des choses, ça va partir en live, comme d'habitude. De toute façon, on a l'habitude. Hein. Moi, je suis, comme je vous le dis, j'habite en face du stade. L'année dernière, on a eu les Grecs, les Hollandais. Ça a toujours pété.
Bah, faut pas être en Coupe d'Europe.
Si
vous terminez 11e du championnat, vous êtes tranquille, hein.
Ouais.
Non, je rigole, Kamel. Kamel, vous avez des enfants ?
J'ai deux enfants. Là, cet après-midi, moi, hier, j'ai pris mes précautions. Je suis père de famille.
Ouais.
Ma femme qui travaille dans le 13e arrondissement de Marseille, de l'autre côté, je lui ai demandé de se mettre en télétravail, par exemple. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Non, bah bien sûr que non. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je vous prends en ligne aussi au 32-16, Kamel, parce que pour que vous nous racontiez justement comment vous vivez ce match. Et vos enfants, ils viennent avec vous au match ce soir ?
Mais jamais de la vie. Voilà. Mais jamais de la vie. Mais les enfants, là aujourd'hui, je vous explique. Ma femme, elle compte arriver d'ici une heure à la maison. Là. Elle se met en télétravail, on va chercher les minots à l'école. Ils rentrent, ils se barricadent, on mange, moi je vais au stade. Et basta.
Mais c'est grave.
Mais bien sûr que c'est grave. Moi, qui j'en veux, moi, c'est... Encore, c'est même pas aux Allemands qui descendent ou quoi que ce soit. Moi, c'est aux autorités. Je sais pas, à un moment donné, ils prennent des décisions.
Mais prendre quelles décisions, Kamel ? On est en Europe. Je veux dire, les Allemands, ils ont le droit de venir comme ils veulent.
Mais on attend quoi alors en fait ? Des morts ou quoi que ce soit ? À un moment donné, je sais qu'on est en Europe, ils vont où ils veulent. Mais les mecs, ils descendent. On sait que c'est les supporters de Francfort. Vous avez un billet.
Comment vous le savez ? Ils portent pas forcément un maillot. Comment vous savez que c'est les supporters de Francfort ? Bah non,
je parle pas. Mais déjà, on filtre un petit peu, minimum.
Ah oui. Je suis d'accord avec Kamel. Il aurait fallu que l'UEFA interdise le déplacement. Quand on sait qu'il y a des clubs avec des supporters dangereux, on interdit. Et le fait qu'il n'y ait pas.
Mais
de...
tu peux pas interdire à un Allemand de venir à Marseille.
Non,
c'est pas possible.
Enfin, déjà,
tu sais pas que c'est un supporter.
Si les supporters, les 3500, sont pas autorisés à venir, déjà, ça va pas générer l'afflux.
Je suis d'accord. Donc, faut interdire le déplacement de supporters de tous les supporters dans ce cas-là.
Dans ce cas-là, oui. C'est mal... voilà. En France, on le fait beaucoup, hein, pour ça, les préfets interdisent certains déplacements.
Là, c'est pas la France, c'est
l'UEFA. Moi, je voudrais remercier Kamel. C'est très rare d'avoir un supporter aussi lucide.
C'est vrai.
Sur les c'est un vrai supporter, il est abonné. Parce qu'en général, ils enlèvent toute responsabilité. Lui, Kamel, reconnaît que le problème vient aussi des supporters. Et ça fait plaisir. Merci Kamel pour votre témoignage. Vraiment.
Et merci Kamel d'avoir été avec nous au 32-16 et d'avoir témoigné dans Estelle Midi. Alors Emmanuel Dancourt, je sais que vous êtes pas trop foot, mais que vous commencez à vous y mettre.
Ouais, oui.
Voilà, depuis Estelle Midi. Ça vous inspire quoi, tout ce qui se passe là aujourd'hui à Marseille?
Déjà, venez plutôt suivre le DFCO à Dijon. Vous verrez qu'on a moins de problèmes que vous.
Surtout en Coupe d'Europe, puisque vous n'y êtes jamais.
On n'est jamais en Coupe d'Europe.
Toi qui connais les clubs amateurs, il y a aussi de la violence dans les clubs amateurs.
Oui, mais c'est un autre problème.
Ce n'est pas un club amateur, Emmanuel, le DFCO. Je te remercie, Rémi. Non, mais ça me pose question parce que justement, moi, le patron du DFCO m'a invité à venir voir un match avec mes enfants et je ne me pose aucune question. Je vais y aller. Je vais y aller. Mais là. Je comprends pas. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre depuis qu'on a parlé dans cette émission aussi de Nice-Cologne la semaine dernière, pourquoi, comme tu disais, Fred, on n'empêche pas la fédération n'empêche pas les supporters de venir. Parce que quand
la fédération, c'est l'UEFA, hein, c'est l'organisme européen du football.
Regarde, on va fermer des écoles à partir de 16h30. Oui, t'imagines les parents, si moi on me disait faut que tu ailles chercher tes gamins à 16h30, je suis pas capable d'y être. Donc il faut se réorganiser. Ça va coûter de l'argent par rapport à tout. On va déployer le système policier, donc ça va coûter de l'argent. Juste pour un match de foot. Et moi, ce qui me fait très mal, c'est l'esprit du sport. Parce que le sport, c'est quand même une des plus belles inventions de l'humanité, avec la culture. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous fédère. Il y a des valeurs magnifiques dans le sport. Et là, j'ai l'impression qu'en un match, deux matchs, trois matchs, allez, on met tout par terre, quoi. Donc ça, voilà, ça incite pas les gens comme moi à aller faire la fête, à se prendre par la main, dire, allez, j'emmène les garçons ou mes filles.
Tu peux les emmener à Dijon.
Je
t'assure qu'il n'y aura aucun problème et que tu passeras une très très belle soirée. On sera avec Rudy Mana, secrétaire régional du syndicat de police Alliance dans un instant. Mais avant cela, Thierry Brou, est-ce que vous êtes scandalisé par tout ce qui se passe?
Bah oui, forcément, dès qu'il y a de la violence. Mais en fait, je suis pas journaliste sportif, donc j'ai plus de questions que de réponses. Quand je vois, par exemple, dans les articles qui sont parus ce matin, un membre de la fédération qui dit « Je crains qu'on ait sous-estimé le nombre d'Allemands se rendant à Marseille
».
Comment, aujourd'hui, peut-on sous-estimer le nombre d'Allemands?
Parce que attends, excuse-moi, je te dis n'importe quoi. D'accord, je suis habitante de Francfort.
Oui.
Je prends ma voiture, j'ai envie de venir à Marseille ou je prends un billet de train.
Et on peut pas mettre des points de contrôle autour de Marseille aux aéroports et dans les grands ronds-points et dire je suis désolé.
Je loue une voiture. Je fais Marseille. D'accord, je fais Francfort-Nice. Ok, je m'arrête à l'aéroport de Nice. Je loue une voiture à Nice et je vais à Marseille. Attends, mais qui va m'interdire moi?
On est capable aujourd'hui.
La loi européenne.
Excusez-moi. On est capable aujourd'hui, quand il y a une manifestation à haut risque, d'empêcher les gens d'arriver, par exemple sur la place de la République, par exemple sur une place parisienne, en filtrant très en amont. Pourquoi ne peut-on pas le faire? Première
question. La seule chose que tu peux faire, tu peux demander au club de ne pas organiser de déplacement officiel. Ce qui
c'est
fait
ce que j'allais dire.
Si tu n'as pas ces 2000 supporters, les autres ne viendront pas tout seuls.
Et c'est une question à Fred que j'ai envie de poser. Puisqu'on connaît les supporters violents, parce que chaque club connaît ses supporters violents, pourquoi on les interdit? Pourquoi il n'y a pas une volonté réelle politique d'interdire ces gens de se déplacer? Pourquoi, par exemple, on n'institue pas une sorte de permis à points où tu as 15 points sur ton, quand tu es abonné à un club?
Il y a des interdictions de stade.
Pardon?
Sauf que là, par exemple, à Nice-Cologne, c'est les supporters parisiens qui ont créé des difficultés.
Oui.
Et tu vas interdire aux gens de Paris de se déplacer à Nice. Les supporters de Francfort, c'est pas que des gens de Francfort. Les supporters du PSG ou de Marseille, ce ne sont pas que des gens de Paris ou de Marseille.
Il y a des gens. Là, on fait ce que dit Fred, c'est-à-dire qu'on interdit les déplacements de supporters.
Mais c'est ce qui se fait en France, les préfets interdisent. Mais pour répondre à ta question, en fait, souvent, les clubs se servent des groupes ultras. Parce que c'est une puissance. Parce que
donc il n'y a pas de volonté politique réelle de s'attaquer à ce problème-là.
Je vais te donner deux exemples très simples. Le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux ont viré les ultras. La tombe de la femme du président du Real a été profanée par les ultras. Le président du Barça, qui est revenu au pouvoir, qui s'appelle Joan Laporta, a été sous protection policière, lui et sa famille, pendant un an. C'est-à-dire que c'est très dangereux de s'opposer aux ultras dans certains clubs. Et beaucoup de présidents préfèrent se taire et accepter la domination de la dictature des ultras plutôt que d'aller contre eux.
Bah donc voilà,
je réponds à ta question.
Et attention, parce que tu peux avoir des ultras d'autres clubs qui viennent sur ce match-là. Donc en fait, si tu veux interdire, je veux dire, à tous les Allemands de venir aujourd'hui à Marseille, c'est impossible.
Comment
c'est
toi le foot.
Pas interdire tous les Allemands.
Juste, je voudrais qu'on prenne Rudy Mana en ligne. Il est secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Bonjour Rudy.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Ça faisait longtemps, Rudy. On parle de ces 1200 policiers qui aujourd'hui sont mobilisés pour le match entre Marseille et Francfort. J'imagine que vous avez autre chose à faire normalement.
Vous avez tout compris. Bon, je vous écoutais avec attention depuis quelques minutes. Je crois que vous êtes tous dans le vrai, mais il y a une solution miracle à tout ça. On interdit les déplacements de supporters, tout simplement. Parce que si vous interdisez la vente des 3200 ou 3300 billets qui ont été vendus à Francfort, il est évident que des gens tout seuls ne viendront pas. En fait, c'est la masse des 3300 qui attire d'autres supporters, comme vous l'avez dit. Ils ont le droit de se déplacer, vous avez tout à fait raison. Ils ont le droit de venir en France quand on est allemand, on a le droit de venir en France. Mais si vous n'attirez pas ces 3300, il est évident que personne ne viendra. Et il n'y aura pas de supporters. Il faut tout simplement vendre les billets aux Marseillais pour ces matchs ici, et quand tu auras le match à Francfort, on vendra le billet qu'aux Allemands. De toute façon, ce n'est plus possible. On le voit tous les matchs, et puis ce n'est pas le premier exemple. L'année dernière, le supporter marseillais qui a parlé tout à l'heure l'a dit. On a eu des problèmes avec Salonique, on a eu des problèmes avec Feyenoord. On a vu la semaine dernière qu'il y avait des problèmes à Nice avec Cologne et effectivement des supporters parisiens. Pourquoi on arrive à mettre en place en France ce système, puisque pour les matchs Marseille-Paris, il n'y a plus d'incidents, puisque les Parisiens ne viennent plus à Marseille et les Marseillais ne montent plus à Paris.
Ah ben ça, ils vont pas venir tout seuls.
Bien sûr, et on n'arrive pas à mettre ça en Europe. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on veut, s'inventer une vie, on veut dire que pour la Ligue des Champions, il faut que les supporters puissent supporter leur équipe. Mais on s'en fout, parce que maintenant, ça devient insupportable. Il y a 3300 supporters, plus ceux qui vont venir s'antiquer. Et là, sur le bitume aujourd'hui, il y a 1200 foutards. 1200 policiers qui sont là, qui ont travaillé jusqu'à 2h du matin hier soir, qui retravaillent ce matin depuis 11h et qui vont travailler jusqu'à 3h du matin cette nuit, parfois sans bouffer, parfois à courir partout dans la ville pour chasser des groupes de supporters qui se battent entre eux. Et ces 1200 policiers qu'on va utiliser aujourd'hui, ils vont pas être à la disposition des citoyens lambda qui payent leurs impôts en France, qui vont peut-être subir une agression, qui vont peut-être avoir un accident de la route grave, qui vont peut-être se faire, qui va y avoir peut-être des violences conjugales d'une femme qui va être en détresse et des policiers, eh bien, on va avoir du mal à y aller parce qu'on est tous, sur ce match, j'allais dire des choses, bon, je vais me calmer, mais sur ce match pour un groupe de supporters qui va venir à Marseille. On les interdit et ils nous emmerdent plus. Et quand ils disent on jouera là-bas, eh bien on n'ira pas.
Mais alors ça je suis d'accord, mais juste Rudy Mallet, on a eu Kamel au téléphone il y a un instant, et lui il habite devant le Vélodrome, et il est supporter de Marseille, et il nous dit c'est pas que j'ai peur que ça pète, c'est que ça va péter, c'est sûr. Est-ce que vous le ressentez comme ça?
Mais bien sûr que ça va péter parce que déjà on en parle.
C'est grave de dire ça.
Mais on n'a plus le choix, Estelle, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, à partir du moment où on accepte, il est évident que ça va péter, parce que les groupes de supporters, ils se chauffent entre eux aussi sur les réseaux. Si vous saviez tout ce qui tourne sur les réseaux, ils se chauffent entre eux. Donc, ils se branchent. Et comme c'est celui qui va être le plus courageux vis-à-vis de l'autre, ils se chauffent dans le centre-ville. Il va y avoir des petits groupes qui vont se disséminer. Mais au milieu de tout ça, parce que moi, je pense à une chose, au milieu de tout ça, il y a les flics, au milieu de tout ça, il y a les policiers, au milieu de tout ça, il y a ces hommes et ces femmes qui sont là, qui n'ont rien demandé, qui vont se frapper une vacation de 14 ou 15 heures, tout ça pour courir après des pseudo-supporters à la con qui se battent entre eux pour protéger un match de foot. Alors moi, quand je suis rentré dans la police, mon but, il était d'aider la veuve de l'orphelin, il était d'aider une femme qui s'est agressée, il était d'aider une famille en difficulté. C'est pas pour se mettre au milieu de supporters.
Là, vous n'allez pas aider, là, vous allez juste essayer de séparer, quoi, en fait, ça n'a rien à voir.
Permettez-moi simplement d'apporter une petite précision. L'Olympique de Marseille n'est pas responsable. Parce que l'Olympique de Marseille est obligé par l'UEFA, l'organisme qui régit avec des champions, d'accueillir un pourcentage de supporters étrangers par rapport à la capacité du stade. Donc là, c'est 3300. Donc l'Olympique de Marseille est obligé de mettre en vente ses billets. Donc c'est pas de sa faute. Voilà. Ça, il faut préciser quand même, parce qu'on accuse souvent Marseille de plein de choses, mais là, c'est pas de sa faute.
T'es déjà topé à l'UEFA.
Je n'accuse pas l'Olympique de Marseille là-dessus, hein, parce qu'ils font le job pour la sécurité. Mais je dis simplement que quand il y a des matchs franco-français, il n'y a plus un groupe de supporters, ou très rarement, comme vous avez
parlé, c'est pas la même instance.
Dijon, Dijon, Clermont, tout ça, ils viennent. Bien sûr, ils arrivent à 100 ou 150.
Oui, on n'est pas embêté.
Avec eux, on n'est pas dans la même dimension. Mais aujourd'hui, il faut que les autorités politiques soient en capacité de le dire. Je suis désolé, on est en France, on ne peut plus accueillir 3300 Allemands qui vont venir avec 4000 autres sans billets. C'est plus possible. C'est pas manquer de courage de faire ça. C'est de mettre à l'abri les citoyens marseillais, parce que vous ne l'avez pas précisé, il y a des écoles qui vont fermer à 4h30.
Non, oui, je sais, on l'a dit justement, on a Julien tiens, qui nous appelle de Marseille, qui est fonctionnaire. Bonjour Julien.
Bonjour Estel, bonjour l'équipe.
Bonjour. Alors, Julien, votre femme est enseignante en maternelle, donc elle va finir plus tôt, quoi.
Non, pas du tout. Elle n'est pas très loin du stade, mais aucune nouvelle du rectorat concernant son école, et pourtant elle est à 200-300 mètres du stade.
Et vous êtes inquiet, Julien?
Si j'étais inquiet, elle serait à la maison. Ouais. Donc non, on n'est pas plus inquiet que ça, parce que j'espère quand même que les supporters... D'abord, ils sont parqués à la Joliette, et c'est très loin du stade. Mm-hmm. C'est même étonnant que ça soit si loin, parce que je vous dis qu'entre les deux, si cette masse-là de population se déplace, ça peut faire des dégâts.
Ben, c'est ça.
Et en même temps, je me dis que c'est vraiment localisé autour du stade, et que quand même, les écoles, j'espère qu'on réchappera quand même à ça.
Vous emmenez vos enfants au stade, Julien?
Ça m'arrive. Pas ce soir, hein, c'est sûr et certain.
Voilà, c'est
Bien sûr que ça m'arrive. L'Olympique de Marseille a fait plein d'opérations famille, avec des places à 5 euros. Et c'était super top pour découvrir le foot. C'est comme ça que j'ai découvert le foot avec mes enfants. Hein, et c'était vraiment génial. Mais ce soir, c'est impossible. Quand le tirage au sort a été fait, on savait déjà que ça allait poser problème.
Ben oui. Mais c'est sûr.
D'ailleurs, c'est ça la vraie question, parce que vous l'avez tous dit, mais que fait la ministre des Sports et que fait l'UEFA dans ce genre de circonstances?
Ah bah là, la ministre des Sports, elle peut pas faire grand-chose malheureusement, puisque c'est vraiment c'est l'UEFA qui est une instance européenne. Merci en tout cas, Julien, de nous avoir appelé au 32-16. On va remercier Rudy Mana également, secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Bah écoutez Rudy, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ce soir? C'est une soirée pas trop compliquée?
Ben, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas trop de policiers blessés, il n'y ait pas trop non plus de supporters blessés, espérons qu'il n'y aura pas un drame, parce qu'il n'y a que quand il y a un drame en France, malheureusement, qu'on agit différemment, qu'il n'y aura pas tout ça. Sachez qu'en tout cas, que les policiers marseillais vont faire le maximum pour essayer que ça se passe bien, et croyez bien qu'on est motivé pour le faire, mais franchement, on en a vraiment un peu marre, quoi.
Ouais, et le drame dont vous parlez, il est quand même arrivé à Nice il y a 5 jours avec un supporter quand même tombé d'une tribune, enfin poussé d'une tribune. Je veux dire, il y a eu un drame et c'était il y a 5 jours et ça n'a strictement rien changé. Et c'était déjà un match de Coupe d'Europe et déjà des supporters allemands puisque c'était Nice-Cologne. Merci beaucoup Rudy Mana d'avoir été avec nous. Alors voilà, ce match, il est ce soir bien sûr entre Marseille et Francfort. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le foot est-il devenu dangereux, Rémi?
C'est un oui sans réelle surprise. Oui à 73% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je voulais juste dire, au plus sens plus large de la violence dans le foot, Dijon, novembre dernier, derby face à Auxerre, incident dans le centre-ville. C'était en novembre dernier, 80 supporters auxerrois qui avaient agressé des supporters dijonnais. Mmh. Même si c'est sans commune mesure, c'est la violence dans le foot.
J'en ai même pas quand on cherche, on trouve. Je veux dire,
ça s'appelle de l'information.
Oui, non, mais c'est, enfin, oui, mais c'est
bravo,
général.
Dijon, c'est quand même pas une ville.
Oui, mais c'est la violence dans le football en général.
Voilà. Ouais, non, mais d'accord, mais si tu prends sur chaque terrain, évidemment, tu vas toujours trouver un petit quelque chose. Et puis il y a aussi des.
C'est bien ça le problème.
Oui, enfin, ça se passe. Déjà, il n'y a pas d'incident que dans le foot, et c'est aussi majoré quand c'est dans le foot. Allez, dans un instant, on parlera de la fin du jour, la fin programmée du bouclier tarifaire, et ça risque de nous faire très, 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 très mal au porte-monnaie. Mais est-ce que c'est à nous, tiens, de payer ces hausses des prix de l'électricité et du gaz? À tout de suite au 32-16 et sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h31, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23 avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. Vous êtes dans Estelle Midi, évidemment. Et on va s'intéresser tout de suite à la fin du jour. C'est celle du bouclier tarifaire. Alors que celui-ci protégeait les Français depuis plusieurs mois des hausses de prix de l'électricité et du gaz, Elisabeth Borne s'apprête à en finir avec ce système de protection. En clair, on va devoir sortir le porte-monnaie, Rémi, et ça risque de faire très mal.
Oui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a averti hier, selon lui, s'il n'y avait pas le fameux bouclier tarifaire mis en place depuis l'automne dernier par le gouvernement, on verrait en moyenne notre facture mensuelle augmenter de 120 euros pour l'électricité et même de plus 180 euros pour le gaz. Ça, c'est une moyenne d'augmentation pour un foyer français forcément insupportable. Le ministre l'admet. Reste que le bouclier tarifaire coûte très cher aux finances publiques. 10,5 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'électricité depuis l'automne dernier. 6 milliards d'euros pour le gaz. Dans ces conditions, pas question pour le gouvernement de maintenir ce bouclier tel quel. Bruno Le Maire a donc prévenu hier que les Français devront absorber une petite part de cette hausse. Sans en dire plus, c'est la Première ministre Elisabeth Borne qui détaillera le nouveau dispositif demain lors d'une conférence de presse. Parmi les pistes, un bouclier tarifaire plus ciblé en faveur des ménages les plus modestes, de nouvelles offres tarifaires de la part des opérateurs, avec par exemple un élargissement des heures creuses, et au final, tout de même, une hausse des prix pour la majorité des Français.
Alors, est-ce que c'est vraiment à nous de payer ? C'est la question que je vous pose, Emmanuel Dancourt.
Ben moi, je crois que oui. Ah. Parce que ce qu'on ne paye pas aujourd'hui, eh ben c'est nos enfants qui le paieront demain. On va aggraver la dette qui est déjà quand même pas mal.
On ne la paiera jamais cette dette.
Excuse-moi, quand tu rentres dans ton Monoprix, ton Super U, ton Carrefour, que sais-je, ton casino, le prix des pâtes a augmenté, le prix de l'huile a augmenté. Bah, tu le payes.
J'ai le choix.
Donc, au bout d'un moment.
J'ai le choix. J'ai le choix de ne pas prendre de pâtes et de prendre autre chose. J'ai tout à fait. Je suis obligée de me chauffer.
Au bout d'un moment, on va être obligé de payer de toute façon. On ne peut pas gréver comme ça indéfiniment les finances publiques. Et puis, il y a autre chose, moi, qui me gêne dans ce qu'a dit Bruno Le Maire. Il dit je ne veux pas faire d'usine à gaz par rapport au bouclier tarifaire. Moi, je pense qu'il se trompe. Qui devrait faire une usine à gaz. Puis une usine à gaz, attends, il y a des gens hyper diplômés dont c'est le métier d'organiser tout ça.
On a une administration en France qui n'est pas capable de faire ça.
Ouais, mais moi je pense qu'il aurait dû justement aider comme toujours les plus fragiles, les plus pauvres, et gréver un peu plus
les plus riches.
Mais même, ça ne suffit pas. Il aurait dû moduler, je trouve, et faire ce qu'il appelle une usine à gaz, mais qui aurait pu être juste une organisation pour que les plus aisés, les plus riches, commencent à prendre leur part. Parce que tant que tu les tant que tu les fais pas payer, ils ne comprendront pas que sauver la planète, c'est ils doivent aussi prendre leur part. Les énergies fossiles, d'accord, ils doivent aussi prendre leur part. Voilà.
Donc, les riches, c'est les méchants, et les pauvres, c'est les gens.
Les riches, c'est les méchants. Pourquoi j'ai dit que c'était les méchants?
Tu dis faut faire payer les riches.
C'est vachement caricatural quand même.
Tu dis faut faire payer les riches pour qu'ils prennent leur part. Mais les riches, ils payent des impôts, Emmanuel, quand même.
Oui, bien sûr. Mais sur ce bouclier, sur ce problème qui nous arrive et qui n'est que le début, et on en reparlera dans quelques années dans Estelle Midi, moi je pense que c'est aux plus riches d'aider une fois de plus les plus pauvres.
Mais c'est comme impôts, ça, Emmanuel. Il y a moins d'un Français sur deux qui paye l'impôt sur le revenu. Tu crois qui paye encore la taxe d'habitation? Il y a un moment où les plus riches aujourd'hui ils payent. Alors bien sûr, ils pourraient payer 70% de ce qu'ils gagnent, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même, les impôts aujourd'hui ils sont payés par les plus
tu
riches.
Tu verras qu'il y aura
je
besoin
pense
de
que
plus.
Tu fais fausse route sur plusieurs points. Thierry Moreau. D'abord, on ne remboursera pas la dette. On rembourse les intérêts de la dette.
Exactement.
Oui.
La dette, on la rembourse pas et elle s'en sera pas.
Alors c'est une raison pour galoper dans le vide ?
Non, j'ai pas dit ça.
Ah bon.
La deuxième chose, c'est qu'à un moment, pour répondre à la question précise que pose Estelle, à un moment, oui, on va payer. Par nos impôts. Moi, je préfère aujourd'hui que nos impôts servent à dépenser 16 milliards en tout pour que les gens soit préservé de ces hausses de l'énergie. Je rappelle que dans certains pays, l'électricité a augmenté de 80%, 100%, 200%. Nous, elle est limitée à 4%. Si demain, Elisabeth Borne annonce une hausse de 10%, ça va être très dur pour certains, ça va être moins dur pour d'autres. Bien évidemment, sûr. Ceux qui ont les moyens, les plus riches, qui payent déjà des impôts. Sur ceux pour lesquels il y aura des difficultés, je rappelle, et Fred l'a dit, il y a le chèque énergie
Top, le chèque énergie, 150 euros qui est tombé au mois d'avril. Ça veut dire que les prochains.
Il y en aura un autre.
Le mois d'avril.
Il y en aura un autre. On va aider. On est dans un pays où on aide les plus précaires. La problématique, elle est pour les classes moyennes inférieures, et c'est un très joli, un très moche mot, mais les classes moyennes inférieures qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur travail et vont avoir du mal à payer et à chauffer leur logement.
Et ne touche aucune aide.
Et ne touche aucune aide
parce qu'ils
sortent des plafonds. Donc,
c'est eux qu'il faut aider.
Mais attends, quand tu dis il faut la cibler, la mesure, ça paraît logique, et c'est ce que tu dis. Tu dis effectivement il faut pas, enfin on peut faire une usine à gaz, parce que le chèque énergie, je veux dire, on sait à qui il va. Donc il suffit de prendre ceux qui touchent le chèque énergie et de faire que eux gardent le bouclier tarifaire. Mais en revanche, quand tu dis en fait que les riches doivent payer des impôts et payer ces hausses d'électricité, tu peux moduler, c'est-à-dire que l'État peut aider juste les plus pauvres et effectivement et laisser les riches avec des gros tarifs, ça c'est pas un problème. Mais quand tu dis les riches, c'est ceux qui ne toucheront pas en fait ces réductions. Et parmi ceux qui ne toucheront pas ces réductions, il y a des gens qui gagnent 2 000 euros par mois.
Non. Je pense aux très riches.
Alors, on augmente les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu à ce moment-là. C'est autre chose, c'est un autre débat.
Soyons clairs.
Eh ben voilà, je pense vraiment à ceux qui sont dans la zone grise, qui ne sont pas exactement pauvres, mais qui sont juste au-dessus, puis encore juste au-dessus, puis peut-être encore jusqu'au-dessus, pour qui c'est quand même compliqué et qui eux n'auront aucune aide.
Il y aura toujours des gens juste au-dessus.
Il y a un moment, il y a un juste au-dessus qui va très très bien.
Mais oui, mais tu auras toujours des gens qui seront juste au-dessus et qui diront, je suis juste au-dessus et je touche rien.
Moi, je parle vraiment. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. que tu dis, Emmanuel, en disant il faut que les riches payent plus leur électricité que. Je suis désolé, c'est pas constitutionnel. C'est pas possible. En France,
tu peux pas te cacher derrière la constitutionnalité pour ne pas payer, Fred.
Je veux terminer la phrase. Il y a rupture d'égalité entre les Français. On n'adapte pas les prix. Quand tu vas au supermarché, que tu achètes tes pâtes, tu ne payes pas les prix des pâtes suivant tes revenus. Tu viens pas.
Pâtes pour riches, pâtes pour.
Tu peux en acheter les plus chères.
Tu te rends compte.
Tu peux en acheter les plus chères si tu
veux. Tu te rends compte de l'ignominie de ce que tu dis. Je termine la phrase.
Il faut aller vers la sobriété. Moi, c'est ça que je suis en train de dire. Oui, parce que on le sait que ceux qui ne vont pas vers la sobriété, c'est malheureusement, c'est les plus riches. C'est comme ça.
C'est n'importe quoi, ça veut rien dire.
Mais t'es nerveux,
mais qui te dit que qui te dit que
pour vous mettre d'accord, pour vous mettre d'accord, il pourrait y avoir un système.
Et bien gagner sa vie, c'est pas prendre un jet privé, pardon.
Excusez-moi, pour vous mettre d'accord.
Caricatural.
Fred, Emmanuel, pour vous mettre d'accord, il y aurait un système qui est de dire. Les gens qui consomment, les particuliers, parce qu'il y a un trou dans la raquette, c'est les entreprises hein, qui en ce moment souffrent parce que leur énergie est très chère. C'est encore un autre sujet, c'est un gros trou dans la raquette. Mais pour les particuliers, dire ceux qui consomment X au-delà d'un certain seuil paye ses kilowattheures plus cher.
Mais c'est ridicule, à Marseille, t'as moins besoin de chauffage que dans le Pas-de-Calais. Donc dans ce cas-là, il y a une rupture d'égalité entre les régions. Mais non, mais
il y a les passoires thermiques.
Mais c'est ça. Mais regarde, par exemple, il fait plus froid de chez nous dans le Pas-de-Calais qu'à Marseille. Donc on va dire, ah bah oui, les gens du Nord, vous utilisez plus d'électricité. C'est ridicule.
Si t'as une vieille ferme dans le Nord, en pleine campagne, et t'es mal isolé, je peux te dire que tu vas faire partie de ceux qui dépensent le plus. Et ça se trouve, et t'es pas riche.
Tu peux mettre.
Mais non, ça tient pas. Haut. Thierry, t'as essayé de trouver une solution, mais ça tient pas. Reconnais-le. Et ton sourire le dit tout.
Alors, on va prendre Nicolas qui nous a appelé au 32-16 de Ribérac en Dordogne. Bonjour Nicolas.
Bonjour Estelle. Bonjour l'équipe.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Nicolas, ça chauffe un peu sur le plateau, ça va dépenser beaucoup d'électricité. Nicolas, est-ce que vous êtes prêt à payer?
Je vais payer d'une certaine manière, oui. Oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, comme je disais à votre collègue au téléphone. Moi, je suis en train de faire des travaux suite à la tempête du mois de juin à Ribérac. Ouais, et je me fais installer un kit photovoltaïque en supplément avec batterie prochainement, de façon à minimiser le plus possible les futures factures, on va dire, d'EDF.
Et vous avez calculé...
Il faut partir sur un investissement pour une vingtaine d'années. Et quand vous faites cette projection, ça revient beaucoup moins cher.
Écoutez, merci Nicolas, en tout cas, d'avoir été avec nous.
C'est vrai qu'on cherche
des petites astuces, quoi.
Voilà, mais ça sous-entend des investissements lourds, c'est ce que vient de dire nos auditeurs. Il faut que les aides de l'État soient massives pour cette transformation de sources d'énergie. Ce matin, il y avait sur le plateau des Grandes Gueules une nouvelle intervenante qui est infirmière et qui expliquait qu'elle avait mis des panneaux photovoltaïques et qu'elle, depuis deux mois, et qu'elle attend la fin de l'année pour voir si le bilan est positif. Le problème, c'est qu'attendre 20 ans pour savoir si ça va être rentable, ça va être compliqué.
Puis dans 20 ans, tu devras changer de panneaux photovoltaïques parce qu'ils seront obsolètes.
En tout cas, je suis ravie de constater que ce plateau n'est absolument pas solidaire. Moi, je vous parle juste de solidarité et vous m'envoyez.
Mais bien sûr qu'on est solidaire. Toi, tu es injuste. C'est pas la même chose.
Je suis pas injuste. Je suis en train de te dire qu'il faut arrêter de penser. Les futures générations, ils n'auront pas de quoi financer les crises à cause de nous. Donc, à un moment, il faut peut-être se prendre par la main. Mais bien sûr que si, à cause de toi, Fred.
Mais le système de pensée d'Emmanuel Bancourt, que j'apprécie beaucoup demeurant, est quand même très spécial. C'est-à-dire que si tu es riche, par nature, tu es méchant et tu dépenses plus.
Et tu dépenses
plus d'énergie.
Non, mais attendez.
Qui te dit qu'un riche ne fait pas
plus d'énergie? J'ai des amis très très riches.
Ça, c'est factuel.
Désolé.
Tu dépenses plus d'énergie parce que souvent tu fais une plus grosse voiture, tu perds plus en voyage.
C'est factuel.
Tu prends l'avion.
Pas sûr.
Si,
t'as une plus grande maison, c'est factuel.
C'est caricatural.
Fred, il y a eu des études là-dessus. Je voudrais qu'on prenne Ronan qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Et Ronan qui est agriculteur. Ronan, est-ce que c'est à nous de payer justement ces hausses d'électricité et de gaz?
Ben, chacun doit payer ce qui est en place, ce qu'il consomme. Après, le bouclier fiscal, c'est très bien, mais ça aide que les gens qui sont en difficulté, donc ça les aide pas à sortir de la difficulté.
Ah non, le bouclier tarifaire, c'était pour tout le monde.
Pour tout le monde, pour l'instant.
Oui.
Même Bernard Arnault en a bénéficié.
Les aides qu'on aura, les aides qu'il va y avoir, comme ils disent, qui vont enlever le bouclier tarifaire pour certains et pas d'autres. C'est encore ceux qui travaillent pas qui vont l'avoir. C'est tout comme ça. Faut y arrêter 5 minutes.
Non, mais vous voulez dire les plus pauvres.
Bon, c'est ce qu'il faut les travailler.
Ah oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que effectivement.
Si on n'est pas face à nos dépenses, qu'est-ce qu'il faut les travailler? Parce que ceux qui travaillent donc payent fort les impôts pour aider tous ceux qui travaillent pas. Et eux, ils ont des aides de partout. Donc c'est
il y a bon, que 5% des gens qui payent l'impôt sur le revenu, il faut le rappeler.
Oui, mais vous avez aussi, Ronan, des gens qui travaillent et qui malheureusement n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail et qui travaillent dur. Vous êtes agriculteur, Ronan, j'imagine bien que vous ne roulez pas sur l'or, en fait.
Vous avez un autre emploi à côté.
Oui, mais c'est. Ouais.
Et oui, et ben oui, soit on se donne les moyens, soit on se les donne pas.
Oui, je suis d'accord, mais alors Ronan, c'est tout à votre honneur d'avoir deux boulots et d'y arriver. Mais aujourd'hui, en fait, parmi les plus démunis en France, il y a aussi des gens qui travaillent. C'est pas juste des gens qui travaillent pas et qui profitent des allocs. Enfin, je veux dire, je peux pas vous laisser dire ça, Ronan. C'est pas possible.
Ben, je suis désolé, mais moi qui vis dans cette situation et qui suis en conflit avec mon ex à mi-temps touche plus de sous que moi avec mes deux emplois, avec toutes les aides qu'elle a. Donc du coup, est-ce que je bascule à mi-temps comme elle ou est-ce que je continue de travailler comme un cul avec deux emplois? Donc oui, elle peut payer l'électricité. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, parce qu'il y a tellement d'aide qu'ils arrivent à des revenus de 1700-1800 euros en travaillant à mi-temps. Et moi, avec les deux et toutes les charges payées, eh ben, j'y arrive pas à ces revenus-là. Donc, est-ce qu'il faut...
Mais c'est ce que je dis, vous... Oui, mais... C'est, Ronan, vous dites que vous n'y arrivez pas et évidemment votre situation elle est extrêmement difficile, mais ça veut dire aussi Ronan que puisque vous n'y arrivez pas, vous ferez partie des gens qui seront aidés si jamais par exemple Bruno Le Maire décidait de mettre un bouclier tarifaire pour ceux qui n'y arrivent pas justement, vous ferez partie des gens qui seront aidés par l'État et c'est parfaitement normal, Ronan.
Je suis pas sûr que je fasse partie de ces gens-là, moi. Moi, je pense que j'en ferai pas partie.
Après, Renan met le point sur un truc très important, c'est l'effet de seuil. C'est-à-dire qu'on en a parlé plusieurs fois ici. Pour 10 euros, 20 euros, 50 euros de plus, on ne touche plus rien. Donc lui, il a l'exemple dans sa famille de quelqu'un qui touche tout, et lui, il ne touche rien. Ça, le problème des effets de seuil, il faudra qu'à un moment ou un autre, on s'en occupe sérieusement. C'est-à-dire pouvoir avoir une partie des aides au fur et à mesure qu'on travaille de façon à ne pas
décourager les seuls.
Et Renan, je ne sais pas s'il est seul ou pas, mais s'il est seul, il a le droit à rien.
C'est bien pour ça que je voulais une usine à gaz, moi. Voilà.
Est-ce que l'État doit quand même continuer à nous protéger? Parce qu'on se doute bien que, je veux dire, il y a un moment où tout ça va s'arrêter. Enfin, je veux dire, où l'électricité va revenir à un prix normal. Est-ce que l'État ne devrait pas faire un effort pour que ça dure le plus longtemps possible?
Alors d'abord,
au moins jusqu'à l'été, parce qu'à l'été, on peut.
Il y a des leviers. Il y a des leviers. Par exemple, on voit que l'essence baisse en ce moment. Donc. Ponctuellement, là, ça va continuer à baisser, ça va sans doute augmenter plus tard.
Clémentine Autain a aussi... demandé à ce que l'État continue de financer les carburants.
Il y a aussi des investissements à long terme. On sait qu'aujourd'hui, on a délaissé la filière nucléaire aussi bien en termes de maintenance qu'en termes de recherche et développement, notamment le projet Astrid, qui était un projet absolument formidable parce que ça travaillait sur les déchets. Ça, il faut vite réinvestir. Le problème, c'est que c'est 10-15 ans. Donc, il faut très, très vite s'y remettre de façon à pouvoir passer ce creux. Et pendant ce creux, l'État, on est un État français qui est très redistributif, il faut qu'il continue à être redistributif pour aider les plus modestes d'entre nous pour passer ce cap difficile avant les 10 ou 15 ans.
Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On sait que le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. L'Espagne, par exemple, est sortie de ça. Pourquoi on ne le fait pas, nous? Pourquoi la France ne le fait pas?
Parce que la France croit à l'Europe.
Donc, au nom du dogmatisme, on fait payer les Français.
Sans doute un peu, oui.
Bah, oui
attention,
parce que l'Europe, elle nous aide aussi. L'Europe, elle a quand même quelques avantages. Elle nous permet, par exemple, quand on a des incendies, de faire marcher le système européen qui fait que les Canadiens adhèrent.
On va souvent envoyer nos Canadiens ailleurs aussi, nous.
Enfin, la crise Covid, je suis désolé. Non, mais
la solidarité. Voilà, merci
beaucoup. Quand ça nous arrange, on a pris le financement de Bruxelles, de l'Union européenne, face à la crise Covid.
Fred,
quand tu te maries,
quand les centrales sont en maintenance, on achète on achète de l'électricité aux Allemands.
Voilà.
Si tu fais pas cette solidarité là, tu te retrouves comme un con en été.
Non mais attends,
c'est l'Europe.
On s'est mariés. Donc quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire.
Je suis célibataire.
Voilà.
On a beaucoup le pire quand même en ce moment. On vous a posé la question en tout cas sur le compte Twitter d'Estelle Midi, la fin du bouclier tarifaire en janvier, est-ce que ce sera à nous de payer?
Forcément quand on pose la question, c'est difficile de faire accepter, c'est non à 81% de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux.
Et on peut les comprendre. Dans un instant, Anthony Morel qui nous parlera des vols long courrier révolutionnaires. Je suis sûr que vous allez adorer, Emmanuel. Et puis, à 13h, le comité d'éthique qui se dit favorable à une aide active à mourir strictement encadrée. Une nouvelle loi sur l'euthanasie est-elle vraiment nécessaire? On attend vos témoignages, vos réactions au 32-16. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h51, vous êtes sur RMC, RMC Story, et c'est le moment que vous attendez tous, le moment d'Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
J'ai jamais été aussi bien accueilli.
Mais quel accueil, c'est absolument incroyable. On va parler des vols long courrier qui n'ont pas trop la cote. Anthony, mais là, vous allez nous parler de vols ultra rapides et révolutionnaires.
Ouais, des vols en fusée. simplement. Un petit Paris-New York en, en fusée. Pas mal.
Hein?
Une demi-heure. Une demi-heure chrono contre 7 euros. Ça la laisse bouche bée.
Je pense à mes oreilles, j'ai
peut-être. Ah oui, alors bon, faudra peut-être voir. On va entrer dans le détail. Juste pour vous dire, c'est SpaceX en fait qui travaille là-dessus. Vous connaissez SpaceX,
bah
hein,
oui, bien sûr.
Elon Musk, évidemment, on en parle beaucoup. Et là, il y a la patronne de SpaceX qui était en France ces derniers jours, donc qu'on a dit un petit peu plus sur les ambitions de l'entreprise. Et en fait, ce que veut faire SpaceX d'ici 5 ans, hein, c'est pas pendant 50 ans, c'est d'utiliser la même fusée qui s'appelle Starship, qui va être utilisée notamment pour ramener l'homme sur la Lune, pour ouvrir la voie vers la conquête de Mars, donc vraiment des grandes ambitions, eh bien on pourrait aussi s'en servir pour des vols sur Terre, des vols intercontinentaux, comme on utilise aujourd'hui des avions, on pourrait utiliser des fusées. Alors ce serait, je vous explique un peu le voyage.
On n'arrive même pas à faire décoller une navette spatiale en ce moment.
Donc. Oui, alors c'est vrai. Non mais bah, c'est pour ça, je dis, il y a quelques obstacles technologiques, mais enfin on va y arriver. Et alors le truc c'est qu'on arrive, donc on est sur un pas de tir, hein, parce que c'est pas un aéroport évidemment, c'est comme pour une fusée traditionnelle. Vous entrez dans la fusée. Comment?
Ce sera à Beauvais.
Ce sera peut-être à Beauvais. Fusée Ryanair, très bien. Vous entrez dans la fusée. Vous accrochez bien la ceinture, parce que le décollage il se fait à la verticale. Bah oui, c'est une fusée, donc vous partez pour les États-Unis. Vous décollez, la fusée sort de l'atmosphère, elle fonce à 27 000 km/h. Elle arrive à sa destination, donc au-dessus des États-Unis. Elle rentre dans l'atmosphère, elle atterrit à la verticale. Vous sortez une demi-heure plus tard. Une demi-heure pour un Paris-New York.
Où sont mes bagages ?
Alors vos bagages, il y aura sûrement une soute. Après, j'ai pas tous les détails en tête, mais enfin, ce sera probablement pensé pour une centaine de passagers dans chaque vol. Et ça, on nous promet que ce sera.
C'est le Concorde 5.0, quoi.
Alors c'est même plus que le Concorde.
On a qu'à refaire le
Concorde, c'était 3 heures. Il y a des projets. Je vous en reparlerai de ça, mais il y a des projets de super Concorde qui vont arriver. Mais enfin là, c'est l'étape d'encore après. C'est carrément la fusée qui vous transporte.
Hallucinant.
Paris-Sydney, 50 minutes, pas mal non plus. On traverse.
Combien ça va coûter?
On sait rien, mais ça coûtera probablement très très cher. C'est ça.
Je crois pas.
Vous y croyez pas?
Non.
Vous n'êtes pas la seule. Alors, il y a quelques.
Oui, je le sentais.
Non, mais ça, alors attendez, juste.
Qui n'y croit pas?
En fait, on peut douter parce que quand c'est Elon Musk, il y a quand même une grande part de marketing, c'est un VRP de génie. Après, non, mais SpaceX, il y a des fusées qui décollent, qui atterrissent, il n'y a pas de problème. Tesla, il y a des voitures qui roulent. Après, en général.
Il y en a qui se crachent aussi.
Aussi, ça arrive. Mais sur les calendriers, il est un petit peu optimiste. Mais sur la perspective, moi, je pense qu'on peut y arriver. Simplement, ça ne mettra peut-être pas 5 ans, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Là où on a quand même quelques inconnus. La première inconnue, c'est d'abord, est-ce qu'il faudra faire une formation façon Thomas Pesquet avant de prendre ses valises et de partir en voyage? Attends, mais voilà. Alors, la patronne de SpaceX a dit non, mais on fait tout pour que les voyages se passent le plus doucement possible. Ouais, enfin moi déjà les manèges de Disneyland c'est moyen, donc la fusée SpaceX je suis pas certain non plus. Deuxième chose, sécurité, c'est ce que vous mentionniez, et c'est vrai qu'on voit que dans le domaine du tourisme spatial il y a quand même des crashs assez réguliers. Ouais. Alors pour l'instant il y a pas de passagers, mais par exemple rien que cette nuit, il y avait une capsule de Blue Origin, c'est l'entreprise de Jeff Bezos, grand concurrent. Bah oui, est-ce qu'il s'est crashé? Il y avait pas de passagers heureusement, mais enfin ça pose quand même évidemment des questions. Question du prix que tu posais Thierry, et effectivement on n'a pas la réponse là non plus. Ce sera probablement très très cher, ça c'est clair. Et puis donc la question du calendrier, donc ça fait quand même quelques bémols, mais la perspective est quand même réaliste.
Et on a une écologiste très engagée sur le plateau, et c'est Emmanuel Dancourt. Et donc, comment on fait pour l'écologie? Parce que ça ne va pas du tout, là.
C'est pas très fin de l'abondance comme innovation, voilà. Là. Très clairement, c'est-à-dire que déjà qu'il y en a 380, Paris-New York, c'est niveau kérosène, ça consomme, mais alors
en
ça
termes
rien
de
à
CO2,
voir.
Là, ça va être quelque chose.
C'est ça, le décollage de la fusée, c'est quand même assez costaud, c'est vrai. Mais, faut savoir que ce genre de projet se multiplie. Alors, au-delà des fusées, il y a aussi les avions hypersoniques qui voleraient à plus de 5 fois la vitesse du son. Et ça, il y a plusieurs projets à travers le monde. Et au-delà des vols commerciaux, parce que c'est de ça dont on parlait, il y a aussi des applications militaires, ça intéresse beaucoup, beaucoup l'armée. L'armée américaine, par exemple, imagine qu'on pourrait déployer des forces spéciales avec les fusées dont je vous parlais en moins d'une heure à n'importe quel point du globe pour pouvoir frapper ou intervenir en urgence, voilà, grâce à des fusées ultra rapides. Donc ça fait aussi partie des champs d'application pour ces fusées de SpaceX, qui sont quand même, d'un point de vue purement technologique, des bijoux absolus, mais qui vont poser des problèmes écologiques évidents.
Anthony Morel, vous êtes sur Tinder ?
Non, j'ai une copine, donc non, je ne suis pas sur Tinder.
Dit-il en rougissant.
Je ne suis pas sur Tinder.
Et vous n'y avez jamais été ?
Non.
Très bien, voilà. Anthony, mais bravo à vous. Tinder fête ses 10 ans. Mais je vous fais confiance. Tinder fête ses 10 ans et on en parle bien sûr à partir de 14h. Les applis de rencontre sont-elles le meilleur moyen pour trouver le grand amour ? On attend bien sûr vos témoignages au 32-16. Et puis dans un instant, on parlera du comité d'éthique qui se dit favorable à une aide active à mourir strictement encadrée. Une nouvelle loi sur l'euthanasie est-elle vraiment nécessaire ? Là encore, vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.